L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Green Africa. Après Marrakech en 2016, la COP se tient encore une fois en Afrique. La COP 27 sera-t-elle celle de la rupture avec les beaux discours et les promesses en infinir ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis avec aujourd'hui Marc Onan, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Il est en direct de Libreville avec nous. Bonjour Marc et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie depuis Libreville.
Avec nous également en direct de Dakar, Ndaï Maïdian, chargé de projet à l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, section Sénégal. Dès ce vendredi, elle sera en Égypte pour prendre part à la COP 27, mais elle nous a quand même fait le plaisir de répondre à notre invitation. Ndaï Maï, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Green Africa.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Alors, la COP 27 se poursuit en Égypte. C'est une COP, disons, africaine. Marc Onan, l'Afrique qui paie le plus lourd tribut au réchauffement climatique, pourra-t-elle enfin se faire entendre à Sharm el-Cheikh?
Merci pour cette opportunité qui m'est donnée pour dire exactement ce que je pense de toutes ces réunions qui se tiennent pour une seule problématique, le climat et la réduction des gaz à effet de serre. Alors, vous avez dit à l'introduction de votre émission qu'en 2016, il y a eu Marrakech, cette année l'Égypte. Et par conséquent, je considère qu'il n'y a pas de COP africaine. Il y a des COP, elles peuvent se tenir au Gabon, en Égypte, partout, aux États-Unis, en France. Ce sont les mêmes discussions. Sauf que ces mêmes discussions, ça devient la tradition, c'est terminé toujours par une phrase à la fin du communiqué. Les grandes puissances ne sont pas tombées d'accord sur des engagements, il n'y a pas eu de signature. Parfois, c'est un échec. À Glasgow, on a vu le président du comité d'organisation se fondre en larmes parce que c'était un échec. Alors, ça ne veut absolument rien dire une COP africaine. Les grandes puissances ont fait leur travail, ce sont les grands pollueurs, et aujourd'hui, personne ne pouvait lâcher prise. Personne. La preuve, en Égypte, la Chine n'a même pas daigné se déplacer. Le président chinois n'a même pas daigné se déplacer. Le président américain a attendu les élections du mi-mandat. Peut-être qu'il va arriver, on ne sait pas. La France a joué le rôle de défenseur de l'Afrique, mais quel est le poids de la France? Les autres grands pollueurs, ils sont restés sur leur position. Personne ne peut engager. Personne ne veut lâcher prise par rapport à la course à la croissance. Donc, pour moi, ces grandes réunions contribue davantage aux émissions de gaz à effet de serre, parce que quand vous observez la quantité de 40 000 personnes qui vont se retrouver en Égypte, et pendant des semaines, vous imaginez les rotations d'avions avec tout ce que cela comporte comme émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, on cherche à résoudre un problème, et tous les deux ans, on crée le problème. Voilà un peu ma première position par rapport à cela.
En tout cas, Ndaï Maïdian, ils sont nombreux aujourd'hui, ces observateurs, à douter de l'efficacité de ces COP qui se sont jusqu'ici tenues. Marc en parlait tout à l'heure. Pour eux, c'est juste des moments de retrouvailles où l'on rivalise de promesses. Ont-ils tort de penser de la sorte, Ndaï Maï?
Bon, c'est vrai que surtout les Africains, ils sont un peu réticents par rapport à cette question-là. D'autant plus qu'on est à la 27e conférence. Les 26 précédents, c'était toujours des retrouvailles. On se croise quelque part. Il y a les pays pollueurs qui, qui font des promesses, mais après, rien du tout. Je pense que c'est ça qui fait que les gens ne sont plus trop intéressés par ça. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas en avoir assez. C'est-à-dire, tant que le problème n'est pas réglé, surtout pour les pays qui sont plus vulnérables face au changement climatique, il ne faut pas baisser les bras. Comme je l'avais dit aussi, c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre les décisions. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer. Et si on se dit que les COP, c'est inutile, bon, à un moment, ça peut se comprendre vu qu'il y a le lâcher-prise, vu qu'il n'y a pas de suivi. Mais après, on n'a pratiquement que ces occasions-là pour faire entendre. Donc, pour moi, quand même, je reste ferme sur le fait que qu'il y ait 1000 COP, tant que le problème n'est pas réglé, on va appuyer dessus.
Tant que le problème n'est pas réglé, on va appuyer dessus, c'est bien entendu. En tout cas, Marcona, les pays du continent demandent plus de justice climatique. Ils veulent aussi que soient financés les dégâts causés par ces bouleversements. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de cette COP27. Est-ce que vous vous attendez, Marc, à des résultats probants dans ce domaine?
Mais tant que l'Afrique sera toujours en train de tendre la main, puisque soit les autres qui résolvent ces problèmes, même si dans le cas du changement climatique, les grands pollueurs sont identifiés. Je pense aussi que l'Afrique a une part de solution dans les problèmes que nous avons. Quels sont les problèmes que nous rencontrons dans nos différents pays par rapport au changement climatique? Moi, je suis du Gabon, et c'est un pays à forte réseau hydrographique. C'est un pays de soleil, c'est un pays de forêt. Mais au Gabon, le problème énergétique se pose avec insistance. Vous avez l'arrière-pays qui n'est presque pas électrifié dans les villages et autres, qui sont des groupes électrogènes qui alimentent les villages. Et pourtant, on a la possibilité de construire des micro-barrages, des barrages hydroélectriques, parce que le réseau hydrographique est le plus dense en Afrique. Pourquoi ce petit problème, on n'arrive pas à le résoudre pour effectivement, des émissions de gaz à effet de serre. Plus nous aurons des groupes électrogènes pour alimenter les petites villes, les villages, plus les émissions de gaz à effet vont être intensifiées.
Donc, pour vous, on ne profite pas assez des énergies renouvelables?
Exactement. Pourquoi on ne profite pas assez? Nous avons du soleil. Pourquoi l'énergie solaire n'est pas très répandue dans nos différents villages, dans nos localités? Nous avons tout ce qu'il faut, nous avons la forêt. Je prends le cas d'un pays comme le Sénégal, j'ai été au Sénégal, à Dakar, où quand vous venez à Libreville, vous avez un problème d'eau dans les robinets, mais l'eau coule partout sauf dans les robinets. Par exemple, au Sénégal, vous avez la possibilité, moi je n'ai pas vu une seule coupure d'eau au Sénégal. Donc, l'Afrique a peut-être développé un projet de comment on appelle ça, la muraille verte.
La grande muraille verte, oui.
La grande muraille verte, quelle est la contribution de l'Afrique? Quel est l'effort que les pays africains ont fourni pour financer ce grand projet de l'Union africaine? Toujours en train d'aller tendre la main à l'extérieur, et quand ce financement arrive, on a quand même, moi je suis du Gabon, il y a eu certains financements qui ont été annoncés par des grands pays comme la Norvège pour venir à bout de certains problèmes, mais malheureusement, l'argent a pris d'autres destinations. Donc, l'Afrique ne sera pas toujours mendiant dans tous les domaines. Quel que soit le domaine, il faut toujours tendre la main à l'extérieur, alors qu'on a besoin d'un effort d'abord des pays africains pour montrer la bonne volonté de résoudre les problèmes.
En tout cas, la question du financement est au cœur de cette COP. Dans le même ordre d'idée, les fameux financements pour l'adaptation peinent à arriver. Je pense notamment au fonds vert. Naïma Idian, pourquoi ça coince? Pourquoi ce fonds peine à décoller?
Bon, moi, je dirais qu'il y a deux problèmes déjà, parce que chez les jeunes, il y a des gens qui ne savent pratiquement qu'aujourd'hui, il y a du fonds qui sont destinés au financement climatique de 1. Par où ils passent, on ne sait pas, on ne saurait dire. Donc ça, je crois que c'est le premier problème. Après, moi, je me rends compte que nous ne faisons pas forcément attention à tout le potentiel qu'on a, surtout en terre africaine. Je rejoins ce que mon collègue gabonais a dit. C'est-à-dire, la nature nous a tout donné. Mais nous, au lieu de la remercier à la croix des gens, parce que c'est notre planète source de vie, nous, pratiquement, on fait ce qu'on veut avec. C'est après qu'il y ait les dégâts qu'on va se dire, mais non, c'est pas bon, ça sent pas bon, la santé humaine et animale est en danger, etc. Alors que ça ne marche pas comme ça. Nous sommes le problème, oui, mais il faut arrêter d'être le problème, il faut être la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est là. Peut-être on parle de fonds, de financement, mais après, il y a la volonté. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que, oui, comme l'Afrique ne contribue pas à hauteur de 4% du taux d'émission de gaz à effet de serre, on ne va pas agir. Non, si on agit aujourd'hui, c'est plutôt parce que nous sommes impactés par le changement climatique. C'est vrai, il y a la part des promesses. Après, nous, c'est sûr qu'on a des petites actions à faire à travers le reboisement, à travers l'éducation à l'environnement. Donc, il ne faut pas miser tout le temps, pour moi, sur le financement climatique. C'est vrai, ce sont des choses, parfois, on minimise, mais ça peut impacter à grande échelle. Et je pense que nous, on a la possibilité de le faire. Alors, si on agit dans ce sens, ça irait. Après, toujours dire que les fonds climatiques, bon, les fonds verts que les gens vont débloquer, il y a le problème du manque d'informations, mais il y a le problème aussi du fait que les pays pollueurs, chaque année, ils promettent 100 milliards de dollars, 100 millions de dollars, je ne sais plus. Mais après, d'après les résultats que j'ai eu récemment, pratiquement les pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont obtenu que 7%. Et ça, c'est peu encore, comparé à tout ce qu'on doit faire. Donc, je crois que le problème se trouve à ces deux échelles-là.
Marcona, les États-Unis ont lancé hier une initiative, ont lancé, disons, c'était mercredi, oui, hier, une initiative basée sur un marché de crédit carbone qui a reçu un accueil mitigé des militants pour le climat. Selon vous, est-ce que c'est suffisant de compenser la préservation de la biodiversité africaine par des financements pour mettre fin à cette injustice climatique subie par l'Afrique?
Ça revient à un problème que je dénonce, c'est-à-dire la question climatique ne doit pas tourner autour de l'argent. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça devient un problème de business. Alors, est-ce que cela signifie que les grands pollueurs, ils vont demander aux Africains, écoutez, arrêtez telle ou telle activité, nous on va vous donner de l'argent pour compenser ce que vous risquez de perdre. Moi, je ne suis pas sûr que le problème puisse être à ce niveau-là. Nous souffrons en Afrique d'un problème de gouvernance. On souffre d'un problème de gouvernance. À partir du moment où on va mettre l'accent sur l'argent, c'est-à-dire les Africains attendent de l'argent, je ne suis pas sûr qu'on aura résolu le problème. Quel est le mécanisme qui sont mis en place pour le contrôle de ces financements? Les dirigeants africains ont tendance à dire, voilà, nous sommes des pays souverains, on accepte l'ingérence dans les affaires extérieures. Je suis responsable d'une organisation depuis plusieurs années. Mm-hmm. Je vois exactement à quoi servent les financements qui vont dans le sens de la préservation, la protection de l'environnement, etc., etc. Parfois, quand vous allez faire le bilan sur le terrain, on a annoncé des milliards injectés par la Banque mondiale, par le Fonds vert, etc., etc., par des bailleurs de fonds.
Mais sur le terrain, il n'y a rien.
Il n'y a plus rien. Il n'y a presque rien, et puis ces partenaires multilatéraux ont du mal à mettre la pression sur nos États pour rendre compte de partie de l'argent, mais ça contribue à l'endettement de l'Afrique, mais pour rien, pour des résultats qui ne sont pas visibles sur le terrain.
Alors, Ndaïma Idian, est-ce que vous partagez aujourd'hui l'idée de ces crédits carbone? Est-ce réellement une solution pour les pays en développement?
Bon, oui, pour moi, du moment où ça incite les gens à développer des projets verts, c'est bon. Parce que de ce que j'ai compris des crédits carbone, c'est une attestation qui prouve que les gens ont rédigé des projets qui visent plutôt à capter une bonne partie du CO2 émis dans l'atmosphère. Ça, c'est bien, du moment où les gens le font. C'est vrai que peut-être c'est parfois l'argent qui attire, mais d'un autre côté, quand même, ça va. Parce que ça vraiment incite les gens à développer des projets qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement. Après, c'est vrai que si ce n'est pas trop développé aussi, bon, comme je dis, c'est toujours le manque d'informations qui fait que voilà, les gens ne sont pas trop au courant, ne sont pas imprégnés, ou c'est juste une petite partie de la population qui est au courant. Mais toujours est-il que si aujourd'hui on peut mettre en place des stratégies qui permettent de financer des projets verts, pour moi, c'est OK.
Des projets vers au vrai sens du terme. Marcona, il y a un consensus général sur la nécessité de limiter aujourd'hui le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, ce qui implique de ralentir les industries. Il se trouve cependant, Marc, que le continent africain a besoin d'industries pour se développer. Comment aujourd'hui résoudre cette délicate équation en respectant l'environnement?
En faisant tout simplement une exploitation durable, nous avons dans le pays des dispositions légales, le code de l'environnement, le code forestier, le code minier, le code pétrolier, etc., etc. Je pense que si les États, les responsables politiques, se permettaient de respecter les dispositions de ce texte, on peut facilement exploiter nos ressources de manière durable en protégeant l'environnement. Je vous prends un exemple simple.
Allez-y.
On demande d'abandonner les énergies fossiles. Bien sûr, ok, on va abandonner les énergies fossiles. Ça veut tout simplement dire qu'il faut abandonner l'exploitation du gaz, l'exploitation du pétrole. À supposer qu'on arrive à le faire et qu'on opte pour les véhicules électriques, et quand on va fabriquer les batteries qui vont faire fonctionner ces véhicules, c'est avec quelle matière? On est obligé d'utiliser, d'exploiter les ressources naturelles pour fabriquer les batteries. Pour fabriquer ces véhicules, on a besoin, par exemple, du pétrole, pour tout ce qui est plastique, tout ce qui est. Moi, je pense que c'est utopique. C'est-à-dire, on est en train de demander la non-exploitation des ressources. Ce n'est pas la non-exploitation des ressources qu'il faut demander. Il faut tout simplement entourer cette exploitation du respect de certaines normes qui sont déjà édictées dans nos différentes lois. Au contraire, c'est le piège. Nos États sont en train de vouloir tomber dans le piège de cette histoire de crédit carbone. Ça veut tout simplement dire que les multinationales qui exploitent les ressources pétrolières, gazières et minières et autres, vont vous dire, écoutez, nous on va investir dans le marché du carbone et vous mettez vos forêts sous cloche, vos matières premières, vos exploitations, etc. C'est un peu, je caricature. C'est un peu ce que cela veut dire. Mais on va vous donner de l'argent pour compenser. Mais le développement dont nous avons besoin va se faire sur quelle base? Tous les pays du monde se sont développés avec les ressources qui sont en Afrique. Ce sont les ressources africaines, que ce soit l'uranium, le manganèse, l'or, etc., etc. Et bien d'autres se sont développés. Mais nous, qui restons le dernier poumon de la planète, la forêt du bassin du Congo, on nous dit non, il faut préserver. Moi, je suis par contre, je suis écologiste, hein, je suis pour la préservation, mais je ne suis pas pour la mise sous cloche de tout ceci. Je suis simplement pour le respect des dispositions qui visent à l'exploitation rationnelle et écologique de nos ressources naturelles.
En d'autres termes, vous voulez dire qu'il faut un modèle propre à l'Afrique, un modèle de lutte contre ces réchauffements climatiques propre à l'Afrique, pas importé.
Exactement.
Excellent. Excellent. Ndaymaï, en termes de préjudice aujourd'hui causé par la dégradation de l'environnement, il est bien connu que les pays dits du Sud, précisément les pays africains, paient le plus lourd tribut alors qu'ils contribuent le moins aux effets du changement climatique. Les engagements sont nombreux. Une fois en Égypte, je le rappelle, dès ce vendredi, vous serez en Égypte. Une fois en Égypte, quel est ce message, ce discours que vous allez tenir avec j'y vais au Sénégal pour que cette COP soit celle de la rupture.
Alors, pour nous, les choses, elles sont trop simples. Et le président de la République du Sénégal, Macky Sall, l'a dit, nous ne voulons plus de conférences où là, on va juste avoir des promesses sur parole, mais on veut des actions concrètes parce que c'est ça qui va permettre de sauver l'environnement. Il ne s'agit pas d'y aller, d'être 10 000 personnes là-bas, de parler, de débattre. Après, on va dire non, les pays vont contribuer, je sais pas, à hauteur de 100 millions de dollars chaque année, mais après rien. Après, c'est compliqué. En fait, nous, on veut juste porter notre voix et aussi que les jeunes soient impliqués dans les instances de décision. Cette année, je crois que ce sera une COP un peu particulière et j'ai été très heureuse de voir que la population africaine a été là-bas. On est toujours là-bas en masse. J'ai cru voir que sur les réunions lors des réunions préparatoires, des négociations, j'ai vu des jeunes qui participaient. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas de se dire non, on va aller président, on va aller les principaux. OK, ils sont là, ils peuvent prendre des décisions. Mais ce sont les jeunes et les enfants artificiels qui sont les plus impactés par le changement climatique. Et tu vois, aujourd'hui, ils sont au cœur de l'action climatique, au cœur de la lutte contre le changement climatique. Donc, en tant que jeune, je pense que ce sont ces deux messages-là qu'on va faire porter. Espérons que cette COP, quand même, ça va aboutir à des actions concrètes, encore une fois, et qu'on sache que les jeunes sont impliqués. Du coup, ils ont aussi leur mot à dire là-dessus.
Les jeunes ont leur mot à dire. Marcona, aujourd'hui, quels peuvent être, ou bien quel est le rôle que les startups doivent jouer pour contribuer aujourd'hui pour apporter leur pierre à la lutte contre le réchauffement climatique? Je parle surtout des startups vertes.
Ben, est-ce que les startups vertes, elles existent, hein? Je pense que en matière de conservation, en matière de préservation de nos écosystèmes, les Africains n'ont rien à apprendre des autres. Nous avons en Afrique nos techniques de conservation, nos techniques de préservation. Je vais prendre quelques exemples. Que vous soyez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale, vous avez des espèces animales qui ne sont pas, qui sont protégées. Vous avez des espèces végétales qui sont protégées. Vous avez des techniques agricoles qui datent des années et qui ont toujours contribué à la conservation, à la préservation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met la pression sur l'Afrique comme si l'Afrique était au cœur des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. On met la pression sur l'Afrique. Par contre, on devrait innover avec ce que nous avons, ce que nous savons faire. Or, quand vous prenez l'exploitation forestière dans nos différents pays, l'exploitation forestière est en grande partie à l'origine de ce que nous sommes en train de vivre, la désertification, etc. Est-ce que dans nos traditions, on avait besoin vraiment d'exploiter la forêt à outrance pour nous développer? Non. La démographie étant là aussi, vous avez des techniques de protection, des techniques de chauffage. Si, par exemple, on met à la disposition des populations africaines des énergies renouvelables à la disposition, au lieu de cuisiner avec le bois, on crée des fours solaires, par exemple. On crée des fours solaires, on les met à la disposition des populations. On a résolu le problème de la déforestation. Au lieu de faire en sorte que, voilà, on soit obligé d'aller à des kilomètres pour aller chercher de l'eau avec tout cela qu'on porte, pourquoi ne pas faire des forages dans des villages, etc. Là, nous avons des solutions qui ne demandent même pas beaucoup d'argent. Et nous ne sommes pas le continent, contrairement à ce qui est aujourd'hui, qui paye le mieux tribut, le changement climatique, ce n'est pas vrai. Il y a des déserts en Afrique, il y a des déserts en Arabie Saoudite, il y a des déserts aux États-Unis, il y a des déserts partout. Il y a le froid en Europe, qui aussi, dans chaque continent, nous avons des phénomènes naturels qui dévastent, il y a des ouragans partout. Mais chaque pays, chaque continent doit pouvoir s'adapter à toutes ces catastrophes naturelles avec leur propre moyen technique. Mais tout est basé, aujourd'hui, moi, je suis contre le business climatique. Nous sommes en plein business climatique, on multiplie des réunions. Vous imaginez combien ça coûte toutes ces réunions, toutes ces COP, si on identifiait des problèmes dans chaque pays et qu'au niveau des Nations Unies, on se disait, voilà, au lieu d'aller organiser des COP tous les 2 ans, mais cet argent, on peut, par exemple, il y a un problème au Sénégal qui se pose, on met de l'argent pour ce problème qui se pose au Sénégal, etc. Au lieu d'aller dépenser pour faire des réunions qui n'accouchent rien du tout. Moi, j'ai décidé de ne plus aller au COP. J'irai au prochain COP, tant qu'on va se déplacer, on ira au COP, par exemple, à Béchamou ou à Béchava. Mais tant qu'on va prendre l'avion qui va contribuer à la diffusion de gaz à effet de serre, moi j'aurais pu être. Si ça pourrait aller juste diffuser les cas de visite, c'est fini pour moi.
Naima, est-ce que vous partagez les dires de Marc? Très rapidement.
Oui, effectivement, c'est vrai, parce que j'ai vu un poste qui disait qu'il y a plus de 400 jets privés vont aller là-bas. Vous venez dire à l'Afrique comment ça va tenir. Moi j'ai vu le poste, ça m'a fait mal. Et pourtant, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on parle, mais on veut régler. Mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de le faire? On pollue sans même le savoir. On s'en rend pas forcément compte. Et c'est après qu'on va savoir que là, c'est vraiment le point irréversible. Donc, dès maintenant, essayer de développer quand même des moyens écolos. Mmh. Et je salue les gens de l'Égypte parce qu'ils ont apparemment dit que là-bas, les moyens de transport, que ce soit les bus, là, c'est écolo. Ça ne pollue pratiquement pas. Et c'est bien, c'est de ça qu'on a besoin, d'actions concrètes. Au moins, là où on part faire les COP, là-bas, on sait que les gens sont des éco-citoyens. Eux-mêmes, ils prennent la chose. Et ce sont ces genres de modèles-là qu'on a besoin de développer partout dans le monde, surtout chez les gens qui vraiment polluent le plus.
En tout cas, nous vous souhaitons une bonne COP27, Ndiaye. Voilà, je le rappelle, vous serez demain, vous serez ce vendredi en Égypte. Merci Ndiaye, merci d'avoir répondu à nos questions. Marc Ona, merci également, merci pour vos précieux éclairages. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à la réalisation de ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, c'est aussi une urgence sociale.